Alors ce matin, nous allons poursuivre notre étude sur la lettre de Paul aux Colossiens et je me réjouis pour ces instants pour pouvoir vous partager à la fois le fruit de mes recherches, de mes découvertes et aussi de mes questionnements. Le passage est très court, hein, 7 petits versets, mais il est dense et j'ai le sentiment de l'avoir juste effleuré. Et c'est un passage qui m'a remis plus d'une fois en question. Et moi, j'ai aussi été encouragé par les propos dernièrement de Chantal et de André. Ils nous ont fait une courte rétrospective de leurs 56 années de présence et d'engagement dans l'Église. Et Chantal a dit que durant cette longue période, il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu des moments faciles, des moments difficiles, des moments encourageants, des moments décourageants. Mais elle aime l'Église, a-t-elle dit, même si elle est imparfaite. Et c'est vrai qu'elle est imparfaite. De temps en temps, l'orateur se plante. De temps en temps, la technique derrière se plante. Mais combien on est content de leur service. De temps en temps, les musiciens se plantent. Mais moi, je me régale dimanche après dimanche en les écoutant. Alors, vous avez peut-être entendu la descente dimanche dernier de Hubert au piano. Je me suis régalé. Vous avez peut-être observé Noémie lorsque, avec son violon, elle fait du spiccato. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Mais c'est impressionnant. Mais au-delà du résultat ou de la prestation ou des dons, des capacités qu'on a, je crois que le plus important, c'est l'attitude du cœur avec laquelle on fait les choses. Et ce matin, on va aussi parler du cœur. J'aimerais qu'on puisse afficher Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 7. Colossiens 2, les versets 1 à 7. Alors dimanche dernier, le titre de la prédication était « Christ est suffisant ». Josué nous avait découpé cette prédication en 4 points. Le serviteur souffre pour Christ. Le serviteur sert le corps de Christ. Le serviteur parle de Christ. Et enfin, le serviteur travaille avec Christ. Et il a conclu en disant « Soyons utiles les uns pour les autres pour nous encourager avec la force que Christ nous donne ». Alors ce matin, nous avons changé de chapitre, mais pas de sujet. Le texte de ce matin forme un tout avec le texte de la semaine dernière. Le premier verset commence par « en effet », ce qui nous renvoie à ce qui a été écrit précédemment. À l'origine, ce mot « en effet »,« gar » en grec, revêt une signification toute particulière. Il était utilisé pour indiquer au lecteur que des explications allaient suivre les déclarations précédentes, et que la suite est cruciale pour comprendre le message dans sa globalité. Et ce petit mot, on le trouve des centaines de fois dans le Nouveau Testament, et les linguistes, les traducteurs, ils sont très attentifs quand ils donnent quand ils traduisent la Bible. Et donc, tout comme dimanche dernier, où il a été question de combat, de souffrance, de mystère, il en est de même dans le texte de ce matin. Et dans cette deuxième partie, l'apôtre Paul va développer son idée et amener le lecteur à un point bien précis qui se trouve au verset 6, lorsqu'il dit « Ainsi donc, marchez en Christ. » Christ est suffisant ? Marchez en Christ. Et il va expliquer de quelle manière. Quelques mots sur l'épître aux Colossiens. Cette lettre, Paul l'adresse dans un premier temps aux chrétiens de la ville de Colosse, avec l'instruction, la directive de la faire transmettre et lire aux chrétiens de la ville de Laodicée. On voit ça à la fin de l'épître, Colossiens 4, verset 16. « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens. » Et il est probable que cette lettre ait été également lue chez les chrétiens de la ville de Hiérapolis, dont il est fait mention également dans la lettre. Les trois villes se trouvent dans un mouchoir de poche et étaient confrontées à des risques similaires. La lettre de Colossiens, tout comme les lettres d'Éphésiens, Philippiens et Philémon, font partie des lettres qu'on appelle les épîtres de la captivité. On les appelle ainsi parce que l'apôtre Paul les avait rédigées alors qu'il était en prison. L'hostilité, une réalité. C'est le verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Depuis que Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, l'engagement de Paul à sa suite a engendré souffrance, lutte, combat, difficultés et préoccupations pesantes. Et tout cela, il va le décrire très précisément dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11. Si on peut afficher le passage, 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assailli chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et dans le passage de ce matin, il va le formuler ainsi au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Dans ses lettres, Paul utilisait toujours un vocabulaire que comprenaient bien ses contemporains. Il a souvent utilisé des images liées soit à l'armée, soit au monde du sport, au monde des jeux. Dimanche dernier, Josué nous avait parlé du verbe « combattre », « agonizomai », « combattre à l'agonie ». C'était un terme qui était utilisé pour décrire le combat acharné, la lutte des athlètes dans le stade pour obtenir les lauriers. Et Paul compare finalement son engagement et ses luttes pour les églises, dont il a le souci, à l'engagement des sportifs lors de leur compétition. L'hostilité envers Dieu, envers Christ, envers les chrétiens, se manifeste toujours et uniquement de trois manières. Moquerie, opposition, persécution. Je pourrais vous donner de nombreux exemples tirés de la vie de Jésus, tirés de l'histoire de l'Église, ou vous donner encore des exemples contemporains. Voici trois exemples avec l'apôtre Paul. Acte 17, verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Les moqueries sont monnaie courante dans la vie du chrétien. Elles touchent toutes les classes d'âge et tout type d'environnement. Le cadre familial, quand on est par exemple seul chrétien dans la famille, le cadre scolaire, le cadre professionnel, les exemples ne manquent pas. Mais si la foi chrétienne est souvent moquée, quelquefois elle interpelle également et permet de vivre des moments encourageants. Petite anecdote personnelle. Il y a fort longtemps, j'avais à ce moment-là 25-26 ans, et je travaillais chez un équipementier automobile dans le nord de l'Alsace, dans le service qualité, et je me rendais régulièrement à Wörth, en Allemagne, là où se trouvait la ligne de production des camions Mercedes-Benz. On mangeait avec le collègue ensemble, à la cantine, et très rapidement, au bout de quelques jours, le collègue me regarde, et il me dit « Tu fais partie d'une église, toi ?» Alors j'étais surpris. Et il m'a donné des explications, il me dit « Écoute, toi, t'es comme un copain à moi qui va dans une église, c'était son expression, tu dis pas de gros mots, tu rigoles pas quand on raconte des blagues salaces, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. » En tant que chrétien, je crois qu'on est plus observé qu'on ne l'imagine. Deuxième forme d'hostilité, acte 13, verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. L'opposition peut être frontale ou subtile. Lorsque l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Colossiens, c'est pour les mettre en garde, entre autres, sur les croyances contraires à la saine doctrine qui pourraient s'introduire dans l'Église. Certains d'entre vous se rappellent certainement de ces périodes où des mouvements se sont introduits dans certaines de nos églises. Mouvement du Nouvel Âge, mouvement du vin nouveau avec une soi-disant nouvelle Pentecôte, théologie de la prospérité, j'en passe et des meilleurs. Et enfin, dernier type d'hostilité, la persécution. Acte 13, verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Si vous allez sur le site de l'ONG Porte Ouverte et que vous regardez l'indice de persécution dans le monde, vous verriez qu'il y a un chrétien sur sept dans le monde qui est persécuté. Un article tout récent sur le Nigeria parle de pertes humaines, d'enlèvements et de déplacements forcés parmi les chrétiens lors de la Pâque 2026. Ma carrière professionnelle est déjà bien entamée. J'en ai passé une partie dans l'industrie, une partie dans le transport et maintenant je suis dans l'agricole. Dans le transport, j'ai découché de nombreuses années. Mon véhicule était équipé d'une climatisation pour les journées chaudes d'été, d'un Webasto, enfin d'un chauffage d'appoint pour les nuits froides. Mais il n'était pas équipé d'une climatisation réversible et les nuits étaient quelquefois compliquées. En plus de la chaleur environnante, la chaleur emmagasinée durant la journée du moteur et la tôle de la cabine rendait les nuits quelquefois un peu compliquées parce que la chaleur était restituée. Et si j'ouvrais les fenêtres, les moustiques rentraient et puis le bruit des camions frigorifiques était amplifié. Et quand enfin j'arrivais à m'endormir, je me réveillais en sueur, en nage. Et là, j'ai souvent pensé à ces chrétiens qu'on place quelquefois dans des conteneurs métalliques, en plein cagnard, qui endurent des chaleurs nettement plus importantes. Et j'ai aussi pensé à quelques chants qu'on chante peut-être parfois avec peut-être trop de facilité. Je. Réalité, vœu pieux ou mensonge? Quelle serait mon attitude dans un tel contexte? Personnellement, je m'interroge. Dans plusieurs passages, l'apôtre Paul va exprimer clairement que suivre Christ entraîne obligatoirement de l'hostilité pouvant aller jusqu'à la persécution. Avec Timothée, il sera même catégorique, il va lui dire « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3,16. Et lui dira ensuite, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » 2 Timothée 4,5. Je ne suis pas certain que ma liste soit complète, mais Paul va parler de la souffrance liée à sa foi dans l'Épître aux Romains, aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Colossiens, à Éphésiens et à Timothée. Sans minimiser les moqueries, les oppositions et la persécution, l'apôtre Paul va dire quelque chose d'incroyable dans l'Épître aux Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Et dans les autres passages où il va parler de la souffrance, il va lui opposer l'espérance et la consolation. Dans le cadre de mon travail, il m'arrive occasionnellement de préparer des sacs de blé pour des clients qui ont des poules. Lorsque je remplis le sac, je recherche le point d'équilibre, l'égalité entre la quantité de blé que je mets dans le sac et le réglage de la balance. Lorsque l'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous », c'est comme s'il mettait deux choses dans la balance pour les comparer et il dit « La comparaison, elle est juste pas possible. Aucune égalité possible, aucune comparaison possible. » Petite illustration pour ceux qui seraient plus visuels qu'auditifs avec un peu de matériel. Voilà, j'ai apporté donc une balance avec deux plateaux. D'un côté, je pose un poids de 5 kilos qui représente la gloire à venir. Comment est-ce qu'on peut définir cette gloire à venir? C'est la certitude de la consolation dans la présence de Christ dans un corps glorifié pour l'éternité. Je redis. La certitude de la consolation dans la présence de Christ dans un corps glorifié pour l'éternité. De l'autre côté, pour illustrer, et uniquement pour illustrer le contraste saisissant que fait Paul, je vais y déposer volontairement des objets avec un poids insignifiant. On dit léger comme une du duvet de plumes pour les moqueries. Quelques plumes pour l'opposition. Une grande plume pour la persécution. L'hostilité envers les chrétiens est plutôt une chose réelle et elle se manifeste de différentes manières et elle peut être terrible. Mais Paul nous dit, elle ne saurait être comparée avec la gloire à venir. Fort de ses certitudes, fort de son espérance, de sa ferme assurance, de sa vision de la gloire à venir, il va pouvoir dire aux Colossiens, on l'a vu dimanche dernier, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Paul se réjouit de combattre et de souffrir pour le bien et la croissance de l'Église. Quelle leçon ! Les vœux d'un serviteur, versets 2 et 3. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Étant physiquement absent, Paul veut encourager les croyants, même ceux qui ne le connaissent pas, et leur rappeler les richesses qui sont en Christ. Au passage, il nous fait là une leçon sur la prière. Il va non seulement prier avec insistance pour eux, mais aussi le leur dire au travers de la lettre, ce qui va les encourager. Quelque part, il est acteur, il est actif de sa propre prière. Alors je caricature volontairement, je force le trait. Mais est-ce que nos prières ne ressemblent-elles pas quelquefois à « Seigneur, bénis les missionnaires auprès comme au loin, encourage les malades et fais que les pauvres soient moins pauvres. » Amen. Alors que nos prières devraient peut-être plutôt ressembler à « Seigneur, montre-moi par quels moyens je peux bénir les missionnaires, comment je peux encourager les malades et par quels moyens je peux soutenir les pauvres. » Est-ce que les prières, nos prières s'élèvent vers Dieu ou est-ce qu'elles s'écrasent au sol comme des samares ? Les samares, ce sont les fruits des érables. Vous savez, les nénés, les hélicoptères. L'apôtre Paul va parler du cœur. Paul va prier avec insistance pour les destinataires auxquels il va s'adresser, soient encouragés et qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Dans la Bible, le cœur représente le centre intellectuel, psychologique et spirituel. Il englobe les émotions, la volonté et l'intention. Et il y a de nombreuses références bibliques qui nous disent que le cœur pense, comprend, raisonne, doute, s'enorgueillit, réfléchit, s'interroge, convoite, est séduit et condamne. Il peut aimer, il peut être attristé, être troublé, se réjouir, être dans l'angoisse et être consolé. De bonnes choses et de moins bonnes choses. Dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu nous rappelle il nous est rappelé que Dieu regarde au cœur. Et l'auteur de l'un des proverbes nous met en garde en disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Dans ce passage où l'apôtre Paul parle du cœur, il parle également de l'unité dans l'amour. L'amour fraternel et l'unité dans l'Église sont des thèmes redondants dans le Nouveau Testament. Paul prie pour que les chrétiens de Colosse et de ses environs soient unis dans l'amour. Je vous ai dit un peu plus haut que le chrétien était observé dans son quotidien. La parole de Dieu nous met en garde. Dans une de ses prédications, Florent Varac cite les propos d'un théologien, Francis Schaeffer, dans un de ses livres. Je vous en fais la lecture. Le point dans Jean 13, c'est que si un chrétien ne manifeste pas l'amour à l'endroit des autres chrétiens véritables, le monde a le droit de juger qu'il n'est pas chrétien. Dans Jean 17, 21, Jésus déclare une autre chose qui est bien plus incisive, bien plus profonde. On ne peut s'attendre à ce que le monde croit que le Père a envoyé le Fils, que les prétentions de Jésus sont vraies et que le christianisme est vrai si le monde ne voit pas quelque réalité de l'unité des vrais chrétiens. Voilà qui est terrifiant. Ne devrions-nous pas éprouver quelque émotion à ce point ? Francis Schaeffer, la marque du chrétien. De quelle manière parle-t-on de l'Église devant nos enfants ? De quelle manière parle-t-on du pasteur, des anciens, des membres de l'Église ? Sommes-nous hermétiques ou étanches comme des passoires face à des situations que l'on connaît de l'Église ? Comment parle-t-on des églises qui ont des points de vue secondaires théologiques différents des nôtres ? Sommes-nous dans l'encouragement ou plutôt dans la critique ? J'aimerais que quelqu'un puisse lire le passage suivant, Philippiens 2, versets 1 à 8. Dans cet épître, dans ce passage, Paul nous dit que la clé qui ouvre la porte de l'unité et de l'amour, c'est l'humilité. Philippiens 2, 1 à 8. L'unité dans l'amour est maintenant enrichie d'une pleine intelligence pour connaître Christ. Paul prie pour que les Colossiens aient une pleine intelligence pour connaître Christ, le Messie, Dieu incarné, c'est-à-dire avoir une connaissance authentique, pleine et profonde de la totalité de l'Évangile. Et quand Paul s'adresse aux Philippiens, il fera une demande similaire à Dieu pour eux, que Dieu leur accorde une pleine intelligence pour le discernement des choses, qu'ils puissent distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, versets 8 à 11. Le verset 4, c'est un appel à la vigilance. Lorsque Paul parle de son combat acharné pour les chrétiens des trois églises mentionnées plus haut, son but est de les amener à la maturité spirituelle et de les avertir avec force des dangers qu'ils encourent. Dans un commentaire que j'ai pu lire sur l'Épître aux Colossiens, l'auteur s'interroge. Des erreurs auraient-elles infiltré l'Église ou bien Paul avertissait contre les dangers de la fausse doctrine en général ? Et il évoque différentes raisons possibles qui auraient motivé Paul à écrire cette lettre, et il en cite 8. Paul écrivait peut-être dans le but de contrer des enseignements gnostiques à venir. Paul écrivait peut-être dans le but de contrer des enseignements des Esséniens à venir. Paul écrivait peut-être dans le but de corriger un faux enseignement au sujet de Jésus. Il écrivait peut-être dans le but de ramener certains chrétiens de Colosse de leur amour pour la philosophie humaine. Il écrivait peut-être dans le but de ramener certains chrétiens de l'influence de la pensée juive. Il écrivait peut-être dans le but de ramener certains chrétiens de Colosse de leur adoration des anges. Paul écrivait peut-être dans le but de ramener certains chrétiens de Colosse de leur matérialisme. Et enfin, Paul écrivait peut-être dans le but de corriger un problème de syncrétisme, un mélange de plusieurs croyances tirées du mysticisme juif, de la philosophie et des cultes et des mystères païens. Et l'auteur de conclure en disant que ce sont certainement toutes ces raisons qui ont motivé Paul dans la rédaction de sa lettre. Dans ma Bible, le commentaire de John MacArthur est le suivant. Paul ne voulait pas que les Colossiens se laissent séduire par la rhétorique que déployaient les faux docteurs pour dénigrer la personne de Christ. C'est pourquoi, au cours des chapitres 1 et 2, il souligna la divinité de Christ et insista sur le fait que lui seul était capable de sauver les croyants et de les amener à la maturité spirituelle. Au verset 5, l'apôtre Paul évoque un sujet de réjouissance. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec la joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Dès le début de sa lettre, Paul exprime sa reconnaissance envers Dieu et se réjouit de la piété des chrétiens de l'église de Colosse, qui s'exprime par leur foi en Jésus-Christ et par leur amour fraternel. Et là, il enfonce le clou en utilisant un vocabulaire militaire. Paul les décrit comme des chrétiens unis, possédant une foi solide. Le mot « ordre » décrit les rangs serrés des combattants, et le mot « fermeté » signifie « fortification » ou « forteresse ». Nous arrivons aux deux derniers versets. « Marcher avec Christ ». Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Maintenant que les Colossiens ont accepté Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, Paul les exhorte à marcher en Christ, c'est-à-dire de vivre à sa ressemblance. Ce verbe « marcher », on le retrouve 4 fois dans la lettre. Il décrit finalement un mouvement en avant dans la foi. c'est tout sauf être immobile ou faire marche arrière. Colossiens 1, verset 10, marcher d'une manière digne. Colossiens 2, 6, marcher en étant enraciné et fondé en Christ. Colossiens 3, 7, ne plus marcher comme autrefois. Colossiens 4, 5, se conduire, c'est le verbe marcher, avec sagesse envers ceux du dehors et racheter le temps. Deux illustrations sont utilisées ici pour décrire comment marcher avec Christ, les racines et les fondations. Lorsqu'on plante un arbuste en motte, par exemple, plusieurs étapes sont nécessaires. Il est crucial de tremper la motte quelques instants, quelques minutes dans l'eau, afin d'évacuer l'air qui s'y trouve et que les racines finalement se trouvent au plus près de la terre. Cela permet à la fois un meilleur enracinement, mais aussi permet à la plante une facilité pour prendre les nutriments dont elle a besoin. Le chrétien est appelé à être enraciné en Christ et à y puiser sa nourriture au quotidien. En janvier 2017, on pouvait lire le titre suivant dans la rubrique « Faits divers » de l'un de nos quotidiens régionaux. Wittersdorf, une maison en péril. Et l'article commençait ainsi. Une maison individuelle inoccupée et en travaux menaçait de s'effondrer. Si mes informations sont bonnes, le propriétaire des lieux avait décaissé son sous-sol et creusé sous les fondations pour gagner de la hauteur sous plafond. Il s'en est suivi un arrêté préfectoral, une entreprise de démolition a été dépêchée sur place, et la maison a été détruite. Voilà ce qui arrive lorsqu'une maison n'a plus de fondation stable et solide. Étant d'origine mennonite, j'ai en ma possession un médaillon que mon grand-père m'avait offert. Sur ce médaillon se trouve l'effigie du fondateur du mouvement des Mennonites, Menos Simonis, un certain Menos Simon. Et à l'arrière de ce médaillon, il se trouve un verset, il est en allemand, 1 Corinthiens 3, 11. Est-ce que ce verset vous parle? 1 Corinthiens 3, 11. C'était son verset préféré. Car personne ne peut fonder un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pour atteindre la maturité spirituelle, il faut à la fois être enraciné en Christ et bâtir sur Christ, objet de notre foi. Ainsi, nous ne serons pas facilement déracinés, démolis ou détruits. Les membres de l'église de Colosse avaient été enseignés par Épaphras, compagnon de Paul. C'est lui qui leur avait donné les premières instructions pour marcher en Christ. J'ai eu un jour une discussion technique avec un collègue de travail. J'étais certain de ce que j'avançais, mais finalement je me trouvais à court d'arguments face à un mur. J'ai alors cherché le manuel constructeur et le débat a été clos. Nous avons un manuel constructeur par excellence. La Bible, parole de Dieu, contient quantité d'instructions. Il est vrai que la Bible nous révèle dans un premier temps le plan de Dieu, le plan de rédemption pour l'humanité de Dieu au travers de Jésus-Christ, mais il nous donne également quantité de clés pour notre vie quotidienne, quel que soit le domaine. Voilà de quoi nous réjouir, d'être reconnaissants et d'abonder en actions de grâce. Christ est suffisant, marchons en Christ. Amen.